France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous, Douce France, une heure pour raconter la France dans toutes ses nuances.
Avant, la transmission dans le cirque se faisait dans les familles de cirque. Au bout d'un moment, il y a eu des créations des écoles de cirque. Et là, le cirque a changé en donnant les nouveaux cirques. Il a été beaucoup connu parce qu'il y avait des grandes compagnies comme Cirque Plume, Arcaos, Baroque, les docteurs Parazzi, Barbari. Et après, il y a eu à nouveau un changement de cap dans le cirque et il est devenu le cirque contemporain. Ça veut dire que le cirque contemporain investissait aussi les salles de théâtre, les salles de concert, les espaces non dédiés, l'espace public. Il sortait du chapiteau pour aller un peu partout. Et c'est dans le cirque contemporain que tout a changé.
Tout a changé, nous dit Raquel Rache de Andrade, la co-directrice de la compagnie Arcaos et co-fondatrice de la Biennale internationale du cirque, qui se tient encore pour quelques jours à Marseille et en Provence. Du cirque conventionnel au nouveau cirque, au cirque contemporain, qu'est-ce qui a changé? Le chapiteau? Les acrobates? Où sont passés les fauves, les éléphants, les loups, les zèbres et les ours? Où se sont cachés les clowns d'antan? Où sont passées ces familles qui se transmettaient le cirque en héritage? C'est ce que donne à voir aussi l'exposition En Piste actuellement au Mucem et visible jusqu'en mai prochain. Une histoire de trapézistes, de pitres, de saltimbanques, une histoire des marges entre paillettes et blessures, entre poésie et précarité qui tente à s'effacer peu à peu. En 2021, l'adoption de la loi contre la maltraitance animale imposait aux cirques itinérants d'en finir avec la détention et les spectacles d'animaux sauvages. Un délai pour sa mise en œuvre est fixé à 2028, mais de plus en plus de villes déjà n'en veulent plus. Alors d'hier à aujourd'hui, comment lire ce que nous donne à voir le cirque? Temple ultime des imaginaires, espace d'émotions presque enfantine, il se transforme sous nos yeux, s'institutionnalise et d'aucuns se demandent s'il ne perdrait pas aussi un peu son âme, sa vocation populaire. Au sommaire de Douce France cette semaine, je vous propose un voyage immersif, direction Marseille et sa belle Provence. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Venez, je vous emmène. Bonsoir Pascal Jacob.
Bonsoir.
Vous êtes historien du cirque, directeur artistique du Cirque Phénix, vice-président du Festival mondial du cirque de demain et vous avez signé plusieurs ouvrages, notamment publiés au Seuil sur le cirque, dont une histoire du cirque en 2016 et plus récemment un beau livre, Clown, point d'exclamation, c'était en 2021. Pascal Jacob, est-ce que tout a changé dans le cirque?
Alors oui, tout a changé et en fait rien n'a vraiment changé, c'est-à-dire que on parle d'une forme qui s'est nourrie de multiples influences depuis sa naissance. Alors évidemment, si on parle de cirque moderne, c'est une histoire assez courte, puisqu'on parle de 1768, le 4 avril, très précisément. Mais quand on s'intéresse aux formes qui nourrissent le cirque moderne et contemporain, eh bien, on regarde évidemment inévitablement vers l'acrobatie, la manipulation d'objets, l'humour. Et ça, ce sont des formes qui appartiennent à l'histoire de l'humanité, qui sont nées et n'y sont nées avec les hommes, littéralement. Et donc, à partir de ce moment-là, on a constitué un vocabulaire. C'est ce vocabulaire qui sert de base, de tremplin, d'élan, donc qui permet que l'on change tout en gardant de bonnes bases.
Mmh. Donc finalement, c'est un vocabulaire, c'est une langue, c'est une grammaire, mais qui évolue avec son temps. Quand on entend Raquel Rache de Andrade nous dire que finalement, on a créé des écoles, on a institutionnalisé peu ou prou le cirque, mais on a aussi ouvert cela à la société civile, on est sorti de cette dimension de tradition d'héritage dans les familles. Ça veut dire quoi? Ça a créé quoi?
Le cirque a toujours été un miroir de son temps, ça a toujours été un écho du monde. Et en fait, quand on regarde avec un peu de recul, on se rend compte qu'il a toujours évolué, il a toujours muté, il s'est toujours adapté. Et effectivement, depuis quelques années, alors depuis quelques décennies même maintenant, l'élément déterminant qui a bousculé un petit peu les lignes de force, c'est l'avènement des écoles. En fait, de pouvoir permettre à tout un chacun, quelle que soit son origine sociale, de pouvoir faire du cirque. D'avoir la possibilité de pousser la porte d'une école et de devenir, pourquoi pas, acrobate, jongleur, etc. Donc ça a véritablement transformé les choses.
Ça a démocratisé, ça l'a ouvert,
ça a vraiment permis à n'importe qui de s'approprier le vocabulaire et donc d'en faire autre chose. C'est ce qui est probablement déterminant. Aujourd'hui, on considère que souvent les écoles sont prescriptrices de formes. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la maîtrise technique, c'est valable dans toutes les formes d'art, vous avez la maîtrise technique, vous pouvez la transcender. Et c'est justement cette transcendance qui est intéressante parce que les étudiants d'aujourd'hui, eh bien, ils vont transcender un vocabulaire ancestral pour en faire quelque chose qui leur ressemble. Et les mutations du cirque contemporain, elles sont là, en fait. Elles sont dans cette perception, dans cette intelligence du geste, mais qui maintenant s'amplifie, se nourrit d'un propos, d'une dramaturgie, etc.
Alors, on y reviendra, évidemment, mais je vous propose un premier arrêt, Pascal Jacob, dans ce voyage immersif, direction le Mucem à Marseille. On va remonter un peu le temps. La metteuse en scène et autrice Masha Makayev et le conservateur en chef Vincent Giovannoni signent l'exposition En Piste. C'est parti pour une déambulation entre les œuvres réalisées par Vanessa Nadjar.
On est dans un endroit assez magnifique qu'on nous a confié et on a inventé un spectacle immobile avec deux espaces. Là, on est dans le vestibule, hein, des bonimenteurs. Et puis après, on va passer les rideaux et on sera dans la grande nef où il y a trois pistes, un podium, des loges, des cagibis, un Nickelodeon. Et le public va déambuler et voir au fond des restes de la vie de ces saltimbanques. Parce qu'il faut dire que ces saltimbanques, qui ont eu des heures de gloire, aujourd'hui, ils sont effacés. Il n'y a plus ces petites scènes ici et là, partout. On les a un peu poussées sur le côté, petit à petit. Et je pense que dans une société où tous ces clowns, ces gens de cirque, de saltimbanque n'existent plus, il y a quelque chose qui se crispe dans la société. Parce qu'ils étaient des exutoires poétiques sur ces petites scènes de village, partout. Ils avaient une fonction sociale magnifique.
Vincent Giovannoni, vous êtes conservateur en chef, responsable du pôle art du spectacle du Mucem. Pourquoi est-ce que le Mucem s'empare de cette question ?
Alors, nous sommes effectivement un musée, même un musée national. Il ne s'agissait pas du tout dans cette exposition de faire un mausolée pour le cirque, pour les arts du spectacle. Tous doivent rester vivants, bien vivants. C'est une célébration de cette forme d'art particulier qu'est l'art vivant dont on a besoin. D'autant plus besoin quand nous sommes dans des mondes de plus en plus virtuels. On est tous accros à nos téléphones portables. Alors qu'on a tous objectivement, charnellement, besoin de rapport à l'autre.
Il y a un mot, moi, qui m'intrigue dans ce titre. L'exposition s'appelle En Piste, Clown, Pitre et Saltimbanque. Saltimbanque, aujourd'hui encore, c'est extrêmement mal connoté.
Étymologiquement, saltimbanque, c'est celui qui saute sur la banque. La banque, c'est une table sur laquelle, dans les fêtes foraines, notamment, on pratiquait le change des monnaies, d'où le mot banquier. Les saltimbanques et banquiers ont exactement la même étymologie. Le saltimbanque, c'est celui qui saute sur la table pour la renverser. C'est l'absolue nécessité sociale des saltimbanques. Mettre du désordre pour réinstaller un ordre plus satisfaisant.
Donc en fait, finalement, on est dans un propos très politique. On y va ? Je vous suis ? Allez.
Regardez, donc là, on va passer devant l'estrade du bonimenteur avec deux tableaux qui viennent de Quimper où tout est dit. On a effectivement les forains, la comédie italienne, l'échelle, le petit singe, le public qui regarde, les roulottes et ce côté éphémère comme ça. On monte et on démonte sans arrêt. Et c'est fait de papier, de toile, de petites baguettes comme ça. Et c'est magique. Et puis là-bas, si on s'approche de cet arrêté, vous allez voir, c'est assez extraordinaire, cet arrêté de police.
Donc là, on a un arrêté concernant la police des saltimbanques.
Voilà. Donc c'est le préfet du Gard qui dit tout individu qui voudra se livrer à l'exercice de la profession de saltimbanque, batteleur, escamoteur, joueur d'orgue, musicien ambulant ou chanteur, devra en faire la demande au préfet, en joignant à sa pétition un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le commissaire de police ou le maire de la commune où il sera domicilié.
C'est en décembre 1853 que cet arrêté est publié. Mm-hmm. Pourquoi ils font si peur, les saltimbanques ?
Probablement par un usage non seulement de leur liberté de déambulation, mais aussi par la puissance de la fiction et de la représentation.
On est ici au 19e siècle, mais cette stigmatisation des saltimbanques perdure. J'ai le souvenir, il y a quelques années, de la situation de Château-Vallon, qui est un théâtre à Toulon, ce lieu produisait le groupe NTM. Le préfet s'est ému qu'un groupe s'appelant Nique ta mère puisse être soutenu par de l'argent public et avait demandé le retrait de cette subvention. Donc aujourd'hui, encore, l'État, préfecture de police notamment, est capable d'interdire des spectacles.
Waouh, où est-ce qu'on rentre là? On est accueilli?
Ce sont deux autruches qui vous accueillent devant la première piste, qui est la piste de Ciel et Vertige. Vous avez Charlie Chaplin dans le cirque, un extrait, et aussi Wim Wenders avec les ailes du désir. Et sur cette piste, vous avez un Niki de Saint-Phalle, une nana noire qui a la tête en bas comme une acrobate, un filet de Valency qui est un artiste contemporain, et une œuvre d'art brut de Montfavet.
Eh bien, je vous laisse m'emmener où vous voulez.
Alors, ici, nous sommes à l'intérieur des KGB de rêve fou, où sont présentés des costumes et du mobilier réalisés par monsieur dont le nom de scène était Yanko, Jean-Louis Comte de son vrai nom, qui était dans un quartier très défavorisé à la sortie de Toulouse. Quand j'ai défavorisé, c'est en 1928. C'est-à-dire que pour aller dans le centre de Toulouse, il fallait emprunter des rues qui n'étaient faites que de terre, marcher dans la boue l'hiver. Et le jeune Jean-Louis Comte a découvert des mondes autres, exotiques, ouverts, lumineux, au cinéma. Et pour échapper à la vie miséreuse à laquelle il était destiné, il s'est inventé un personnage de prince hindou, a réalisé des costumes dignes d'un prince hindou, qui sont ceux qu'on voit ici, et a vécu toute sa vie, en réalité, comme le prince imaginaire qu'il était.
Mais comment est-ce que vous expliquez que ce monsieur qui est né en 1928 et qui est décédé en 1990 ne soit pas plus reconnu comme on peut reconnaître des artistes, on voyait Charlie Chaplin à l'instant? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas plus marqués?
Ces petites scènes qui se proposaient à des artistes qui avaient un ou deux numéros magnifiques qu'ils mettaient au point toute leur vie, ces petites scènes ont disparu. Ces fous furieux comme Yanko, qui continuaient cette rêverie, qui fabriquait lui-même ses costumes, ses accessoires, etc. Bien, forcément, il a eu une vie un peu marginalisée. Mais chaque soir où il a fait son numéro devant un petit parterre de gamins qui rêvaient, cet homme-là a été prodigieux, il a été sublime. Et c'est ça qui compte. Un Yanko, il me dit, bon, ben d'accord, j'irai ici ou là, dans un cirque, sur quelque chose d'un peu éphémère, mais ça aura lieu.
Et on le voit sur cette scène, nager avec des éléphants dans un lac derrière Rome. On est en plein été, au milieu des années 60, il fait une chaleur terrible, les éléphants sont accablés là par la chaleur, et la troupe du cirque va baigner les éléphants, se baigner avec eux, les enfants du village viennent se baigner, les mamans sont avec elles, tout ça en 1966, c'est hier. Quand on voit ce genre d'image, on réalise tout ce qu'on a perdu en à peine 50 ans.
Et surtout, j'entends dans ce que vous dites quelque chose de l'ordre d'un lien social qui se crée dans le village au moment où arrive la troupe. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exceptionnalité dans le moment que vous nous racontez. Ça aussi, ça a disparu.
Oui, je dirais même que un des bonheurs du cirque a cette capacité à rassembler des gens de toute origine, tout milieu, tout âge confondu. Quand nous avons pensé cette exposition, nous avons également souhaité que le public qui y vienne puisse le recevoir de la même manière qu'il reçoit un spectacle du cirque, de la façon la plus naturelle qui soit.
Et si on allait du côté des animaux, je vois un tigre et un petit zèbre.
Alors, c'est l'éloge des animaux artistes. Ça s'appelle « Bêtes artistes, où êtes-vous ?». Bien sûr qu'on ne va pas revenir sur l'idée de maltraitance, etc. C'est vrai que dans les cirques, très souvent, les bêtes étaient très malheureuses. Et c'était très important qu'on ait ce regard-là. Mais il y avait aussi ceux et celles, et on a beaucoup de récits là-dessus, qui aimaient jouer, qui étaient de véritables artistes. Et si on célèbre Bartabas dans une des roulottes, là-bas, que l'on voit, Bartabas, c'est quelqu'un qui dit le cheval est un artiste autant que moi quand il est sur scène avec moi. Je ne le dompte pas, je ne le domine pas. Nous jouons ensemble. Et je pense qu'il y a eu aussi ces animaux-là qui avaient cette grâce, ce talent d'être des artistes de scène. Donc voilà, on en fait l'éloge. Après aussi avec humour, bien sûr. Par exemple, mon lion, là-bas, c'est le lion que j'ai dans mon atelier. On avait trouvé une culotte d'Oslo d'un grand dompteur, mais c'est tout ce qui restait de lui. Donc on s'est dit que peut-être c'est mon lion qui l'avait boulotté. Donc j'ai rajouté quelques ossements.
C'est incroyable de voir ces animaux empaillés comme ça.
Oui, c'est assez incroyable. Je fais partie de ceux qui regrettent qu'on ne voit plus ces animaux vivants. Bien sûr, on a toujours Internet, bien sûr, pour voir des images d'animaux dans la savane. Les plus riches d'entre nous peuvent voyager au Kenya, les voir. Mais c'est tout de même assez désespérant de ne plus sentir l'odeur particulière de ces animaux, l'odeur y compris de... quand on allait au cirque, étant enfant, on était très intéressé par l'odeur du caca des éléphants, qui n'a rien à voir avec celle des chameaux ou avec l'odeur d'un tigre. C'est très intéressant cet univers olfactif aussi quand on est enfant et qui nous ouvre à une diversité et à un amour particulier pour l'ensemble de ces animaux avec lesquels, à l'époque du paradis terrestre, nous étions en symbiose.
Je sens une part de nostalgie chez l'un et l'autre sur cette question.
Ce qui m'importe, c'est de parler à l'imaginaire et c'est la force poétique et la représentation. Ce tigre empaillé, il est totalement absent et totalement présent. Tout à l'heure, il y avait un petit garçon qui le regardait et il se disait des choses entre cet enfant et cet objet tigre.
Ce tigre en costume de tigre contemple des clowns en costume de clown.
Ouais.
On est dans une relation d'artiste à artiste.
Ouais. Ben justement, vous m'emmenez voir les clowns ?
Ces artistes-là, il reste quelques cirques, bien sûr, mais ces artistes-là ont absolument existé. Pour certains d'entre eux, étaient extrêmement célèbres. Là, que ce soit Grog, soit Rome, puis leur costume, c'est vraiment leur identité. Vous voyez, c'est vraiment fait comme avec les petites mains dans la haute couture.
Les vêtements de haute couture sont dédiés à des moments d'apparat. Les costumes de clowns, les costumes d'hygiéniste que vous voyez ici, sont des vêtements de travail. Qui a eu à travailler, à encaisser la sueur de ces artistes. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on oublie souvent, c'est que la très grande majorité des clowns ont commencé leur vie en étant acrobates. Ils ont subi un jour un accident, ils sont tombés d'une corde, ils ont raté un numéro, et se sont trouvés d'une certaine manière invalides, et pour pouvoir continuer de vivre, sont devenus clowns. Ce qui explique, quand on regarde ces costumes, on voit que la plupart d'entre eux ont les épaules très larges. On n'a pas les épaules larges pour être clown, on a les épaules larges parce qu'on était acrobate et qu'on est devenu clown. Ici, dans ce triangle, un hommage au clown Boum Boum. Plus personne ne sait qui était Boum Boum. Boum Boum était un clown extrêmement talentueux, qui a développé un numéro, qui a gagné suffisamment d'argent avec ce numéro pour pouvoir un jour racheter l'ancien cirque Fernando. Et il a donné au cirque Fernando le nom qui était le sien, Medrano. Le nom véritable de Boum Boum était Jérôme Medrano. Le cirque est devenu le cirque Medrano, qui était le cirque le plus important, le plus immense en Europe.
Enfin, voilà, ce sont des artistes qui font le tour du monde. Ils étaient célébrissimes. Hein.
Ça paraît fou quand on voit ce que devient le cirque aujourd'hui, d'imaginer qu'on peut avoir des compagnies qui passent de l'Amérique du Sud à la Russie, à l'Égypte et qui font toute l'Europe.
Bien sûr, les Fratellini de la même façon. Et c'est pour ça qu'on a introduit tout près ce rouleau ou la parade des clowns, parce que les peintres sont très sensibles à ça, ils ont tout compris.
Les artistes de cirque aujourd'hui bénéficient du statut d'intermittent, ce qui n'était pas le cas auparavant, et les peintres aujourd'hui encore. Et donc ces gens-là, Rouault, Boum Boum, Medrano, Rome, Baby, Grock, ont vécu dans un même univers artistique et économique, ce qui fait que la proximité était tout à fait naturelle entre eux.
Là derrière nous, il y a les clowns de Fellini. Moi, j'ai choisi la fin de ce film où il fait exploser la piste pour dire son désarroi comme une grande fête triste, son désarroi de la disparition de tous ces artistes. À la fin, Tati nous racontait que voilà, ces pauvres clowns, ils n'avaient plus rien pour vivre. Donc, quelquefois, il les engageait dans ses films pour faire des petites figurations comme ça, parce qu'ils avaient un grand talent. Mais il faut savoir que c'est toute une petite peuplade qui a disparu, mais qui a mis du temps à disparaître. C'est des gens qui étaient dans une très grande précarité.
Alors là, on est chez Bartabas.
Ici, on est devant deux roulottes. Alors, une vraie roulotte gitane, dans laquelle il y aura des images de Bergman, du film Le Septième Sceau. Et puis, de l'autre côté, une autre roulotte, qui est une roulotte de fiction, puisque je l'ai dessinée pour mon décor de la fuite de Bulgakov. Et on a invité Bartabas à l'intérieur de cette roulotte pour vraiment honorer cet immense artiste d'abord, mais qui aussi donne un statut tout à fait particulier au cheval, comme une place de réel artiste au cheval. Et là, j'ai mis quelques oies aussi, puisque dans les premiers spectacles de Bartabas, il y avait toujours un troupeau d'oies.
On va aller voir le Gustave Doré.
Ouais. Hop !
On l'aperçoit dès qu'on entre dans la nef, ce tableau magnifique, très grand comme ça, de Gustave Doré, qu'on pense Pour certains, c'est souvent quelqu'un d'un illustrateur. Et en fait, c'était un immense peintre. Et là, tout est là dans ce tableau. Vous avez le couple de saltimbanques avec l'enfant qui est tombé du fil et qui est en train peut-être de mourir dans les bras de sa mère. On voit le désarroi du père. Au lointain, la peur du malheur des autres saltimbanques qui restent à distance. On voit le regard fixe d'un chien costumé. Le jeu de cartes au pied, c'est le destin des saltimbanques. Et puis tous les objets abandonnés qui racontent aussi leur vie. Et dans ce tableau, il y a absolument tout du destin du saltimbanque. Et après tout, ça nous parle à chacun de nous.
Ça, c'est très cirque aussi.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on vit un renouveau et que ce que vous avez montré là, en fait, est l'affaire du passé ?
Nous vivons dans des sociétés de plus en plus rigides, de plus en plus organisées, classées, dans des petites boîtes, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et j'étais très jaloux, il y a quelques années, d'une expression créée par mon ami Bernard Cudelin, qui est le directeur du Cirque Plume, qualifiant le cirque d'art pour un alphabet. Et j'étais très surpris par la formule la première fois que je l'ai entendue. Et lui explique bien que cette forme artistique peut s'adresser à absolument chacun. Qu'un numéro de jongleur, un numéro d'acrobate, on peut le présenter au fin fond de l'Amazonie, dans les montagnes du Tibet, à l'intérieur du Sahara, dans les plus grandes salles de Saint-Pétersbourg ou de Paris. Le numéro sera toujours aussi prodigieux. Il y a sans doute 50 000 ans que le cirque a été inventé dans les cavernes l'hiver quand on s'ennuyait. Et je pense que le cirque en a au moins encore pour 50 000 ans. On a besoin d'inventer, d'être joyeux, de remettre un peu de désordre, de se poser des questions nouvelles, d'ouvrir des perspectives. Le cirque, le spectacle est là pour ça, c'est sa vocation première.
Voilà, vous venez de déambuler avec nous au MUCEM à Marseille dans le cadre de l'exposition En Piste avec Masha Makeyev et Vincent Giovannoni. Elle est visible jusqu'en mai prochain. Pascal Jacob, je rappelle, vous êtes historien du cirque et par ailleurs vous-même directeur artistique du Cirque Phoenix. Il y a une part de mélancolie quand même, de nostalgie dans ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça veut dire que ce cirque-là, c'est de l'histoire ancienne ?
Non, la mélancolie de toute façon, elle est prégnante quand on s'intéresse à ces objets. C'est plus une histoire de fantômes en fait. Cette expo permet de revivre avec des fantômes, des grands fantômes, et en fait ces fantômes ils sont là pour nous dire voilà, on a fait ça, mais maintenant c'est à vous. Et je crois que se confronter au patrimoine, se confronter à l'histoire, en fait, c'est aussi une manière de préparer le futur et de se dire, à partir de ces choses-là, de ces formes-là, eh bien, il y aura encore tellement de choses à inventer.
Mais on découvre alors Yanko, Boum Boum, le Rome, ces circassiens, ces grandes figures en fait, elles ont été un peu effacées. Dans un de vos livres, on se remémore par exemple le clown chocolat qui nous a été rendu il y a quelques années sous les traits d'Omar Sy. Cette histoire-là, on l'a effacée, on l'a invisibilisée, ou parce qu'on a considéré que ce moment-là était un moment mineur dans l'art, il n'existe pas.
Non, en fait, c'est parce que le cirque n'a jamais cultivé le vedettariat de ses artistes. La vraie vedette d'un spectacle de cirque, c'est le cirque lui-même. Et en fait,
pourtant, c'était des stars.
Oui, ce sont des stars à leur époque. On pourrait parler de Grock, on pourrait parler des Fratellini, évidemment, qui ont marqué leur temps. Mais, et comme par hasard, souvent, ce sont des clowns, parce qu'ils sont vraiment très, très liés, encore une fois, aux sociétés qui les entouraient. Mais je crois vraiment que le public vient avant tout. Alors, parfois, il vient évidemment pour voir un artiste ou plusieurs artistes. Mais je crois que le public, il vient avant tout pour partager un moment fort. Autour d'un cercle avec une communauté qui regarde la même chose en même temps et qui vit et qui vibre ensemble et vibre et vivre ensemble et ça je pense que c'est plus fort que tout et donc effectivement si vous regardez bien les affiches vous verrez que très souvent ce sont des affiches génériques il y a des affiches d'artistes mais beaucoup c'est le cirque et on est attiré par une affiche qui raconte en préambule, un petit peu ce que l'on va voir sous le chapiteau, mais on ne met pas forcément l'accent sur une figure ou sur une personnalité.
Mais est-ce que ça ne dit pas la nécessité aussi de conserver ce patrimoine et cette histoire commune? On entendait aussi la marginalisation d'une part des saltimbanques avec cet arrêté de police qui impliquait de se présenter, de se faire enregistrer quand on venait faire du spectacle. Voilà, on est quand même dans l'espace des marges ou un rapport au nomadisme qui pose question peut-être encore aujourd'hui. Il faut conserver cette histoire-là.
Mais oui, mais le Mucem s'y emploie très très bien. Et puis, il y a un projet de musée à Châlons en Champagne. Je crois que ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une mémoire éphémère. Puisque le cirque arrive, il se produit et il disparaît. Les affiches, elles sont destinées à être collées sur un mur. Elles ne sont pas destinées à être conservées. Un costume, il est destiné à vivre sur le corps qui l'habille et à tomber en lambeaux et à être ou être découpé pour que certains morceaux servent sur un autre, etc., etc. Il y a une espèce d'énergie vitale du cirque qui va jusqu'à ces témoignages patrimoniaux. Donc évidemment, il faut s'employer, et la Bibliothèque nationale de France, et le Mucem, et le futur musée de Châlons, etc., s'emploient bien évidemment à conserver la multitude de traces que le cirque peut laisser derrière lui, et qui sont évidemment très très utiles, encore une fois, pour comprendre les mécanismes de cette forme artistique, pour savoir aussi d'où l'on vient, et puis évidemment pour être plus apte à savoir aussi où on va à partir de ces formidables fantômes.
Je vous parlais du nomadisme à l'instant, qu'est-ce que ça crée chez les artistes, chez les circassiens? Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est en train de changer? On ne circulera plus désormais?
On circulera différemment. On circulera différemment. Il y a des problématiques environnementales, évidemment. Il y a une compagnie en Bretagne qui se déplace qu'en vélo, par exemple. Donc, ça limite évidemment la territorialité, mais en même temps, ça permet aussi d'envisager le cirque dans une autre temporalité. Et je pense qu'on voyagera différemment. On ira toujours à la rencontre des spectateurs. C'est ça aussi qui fait probablement une bonne part de la magie du cirque. C'est un spectacle qui vient vers les gens. Et que ce soit sur une place publique, que ce soit sous un chapiteau, et quelle que soit sa taille, puisqu'aujourd'hui on a de toutes petites structures et encore de gigantesques tentes, mais il y a toujours ce même modèle de vie en fait, c'est d'apporter la surprise, l'émerveillement, la joie, la peur aussi parfois, à un public, quel qu'il soit et où qu'il soit.
Ça veut dire que selon vous, cette dimension d'aller vers, elle ne peut pas s'arrêter?
Non,
à l'heure où on voit du cirque dans les théâtres, dans des scènes nationales, etc., il y a pas cette distance.
Non, je crois pas. Et on est en train de mettre en forme la notion de tiers-lieu aussi, d'avoir des espaces qui sont absolument pas prévus pour le cirque. Je pense notamment au Cirque Leroux qui s'est produit dans un très grand magasin à Paris pendant les fêtes, ou des acrobates que j'ai eu l'occasion de voir dans un musée. Donc le cirque finalement a toujours été en phase avec les villes, les gens, etc. Et là, il est en train de se réapproprier des lieux auxquels on ne s'attendait pas.
Vous écoutez Douce France par Nora Hammadi sur France Culture.
Merci de bien éteindre votre téléphone portable. Si vous avez des questions, gardez-les dans votre tête. Mon papa et ma maman vous répondront à la fin du spectacle. Bon spectacle à vous!
L'envolée cirque.
Thank you.
Merci, Kiran.
Est-ce que les magies, elles sont vraies?
Ça, c'est un petit peu particulier. Parce que ce qu'on a fait dans ce spectacle, c'était pas un film, c'était pas une vidéo YouTube, on l'a fait en vrai devant vous. Par contre, ce que vous avez vu, peut-être qu'il y avait des illusions. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont paru pas normales, ou pas habituelles, ou pas naturelles. Et à ce moment-là, effectivement, on les a fait devant vous, et c'est pas comme c'est censé réagir dans la vie de tous les jours. Nous, ce qu'on voulait, c'est que dans cet espace ici, on ait des moyens, des trucages, des astuces, des techniques, pour que les choses ne soient pas comme dans la vie de tous les jours. Alors oui, on a dû vous cacher des choses.
Ma poche, elle est décollée avec un fil.
Exactement. Comme par exemple, à certains moments, il y a des balles qui sont attachées avec des fils.
Quand on lance un objet, qu'est-ce qu'il fait en principe ? Il tombe. On est tous attirés par quelque chose qui s'appelle la gravité sur Terre. Et on ne peut pas lutter contre. Quand on lance quelque chose, il tombe. Il tombe toujours à la même vitesse. Et nous, on voulait chambouler un peu tout ça. Du coup, on a imaginé ces balles avec des fils pour se dire qu'on pourrait modifier les vitesses et modifier les trajectoires.
Vous avez tous vu, normalement, là, ce qui s'est passé, c'est que ce que vous avez vu, c'est les anneaux changent de couleur. Et donc, vous avez tous compris qu'on les retournait et que derrière, il y avait une autre couleur. Si j'avais jamais retourné les anneaux, vous seriez toutes et toutes rentrées chez vous en disant « Nicolas a jonglé avec des anneaux blancs ». Ça n'aurait pas été tout à fait faux, mais ça n'aurait pas été la vérité. Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose, il ne faut jamais s'arrêter à ce que vous voyez d'abord.
Grand merci. Repartez sans dépasser la corde, s'il vous plaît. Et plein de bonnes choses.
Est-ce que ça vous a plu ?
Oui.
Oui ? Qu'est-ce que vous avez préféré ?
La balle.
La balle ?
Non. Et ça
Quand les balles, elles sont parties de tous les côtés, c'était de la magie, ça. Vous aviez déjà vu un spectacle comme celui-là ?
Non, je suis jamais allée au cirque.
Oui. Et vous, pour vous, le cirque, c'est ça ?
Non, moi, le chapiteau.
Moi, j'ai dit le cirque, c'est pas que ça, c'est aussi avec des animaux, des clowns.
Des chapiteaux. Les animaux, c'est interdit en ce moment. Ça a été retiré parce que... cruauté envers les animaux.
Nous, on sait qu'on utilise des pratiques de cirque. Est-ce que c'est nécessairement du cirque ? Je suis Nicolas Longchamp.
En tout cas, ce spectacle et nous, la compagnie, comme on a envie d'imaginer de manière aussi d'amener une part d'imaginaire, de contemplation, et du coup, on écrit des spectacles. Je suis Pauline Barbeau. Avec ces notions de suspension, quelque chose d'aéré, mais en même temps, il y a le cirque, c'est aussi l'exploit, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi où la chute existe ou n'existe pas. Et en fait, je pense que dans ce spectacle, même une petite forme, on essaye en tout cas de bouleverser ces codes de chute, de risque, et donner, je pense, ces émotions juste pures du cirque, même si on n'est pas là sous un chapiteau, en tout cas de donner ça, quoi. Je suis enfant de la balle, j'ai grandi dans le cirque. J'ai vu aussi, en trois générations, cette évolution du cirque entre le cirque vraiment classique et comment ça a énormément évolué, où tout est possible, permis. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans le cirque, même si après, j'ai fait une école supérieure à l'Académie Fratellini et que j'ai été formée aussi en danse contemporaine et en art du cirque.
Comment vous le voyez, justement, vous, ce renouveau, cette transformation de ce qu'est le cirque aujourd'hui ?
Je le vois comme un champ...
Un champ des possibles.
Ouais, un champ des possibles vraiment ouvert, dans les formes, dans les formats, dans ce qu'on peut y faire. Je trouve très important de garder l'éthique et garder certains codes, mais maintenant on peut vraiment les bouleverser, les chambouler, et je trouve que le cirque a énormément évolué et c'est aussi ouvert à d'autres arts et a laissé la place justement à cette mixité, à ces mélanges-là, et c'est hyper riche.
Finalement, vous qui faites des illusions, Nicolas, c'est le cirque est devenu presque un art total qui permet d'emprunter un peu à tous les arts, quoi.
Il y a eu le passage vers ce qu'on a appelé le nouveau cirque, qui a maintenant plusieurs dizaines d'années. Et donc je pense que ça a été une période où on a eu besoin de dire que le cirque allait vers la danse, allait vers le théâtre, et que en fait le cirque n'était pas suffisamment adulte pour être un art en tant que tel. Moi, à l'intérieur du cirque, mon chantier, à moi, c'est effectivement les illusions et le jonglage. Le jonglage, c'est quelque chose qui est vieux de 4000 ans. Oui, c'est un art, c'est sûr. Nous, on pensait depuis le début que ce spectacle allait soulever des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, à quel moment on est d'accord ou pas d'accord pour se laisser avoir. Typiquement, les anneaux qui changent de couleur, ils ont tous compris, mais ils ont quand même envie d'y croire un peu, et en fait, ça marche pour tout le monde. Et du coup, on se disait qu'à la fin, il faut qu'on débriefe de ça. Parce que c'est les spectateurs qui seront peut-être les spectateurs de demain, ils sont en train de former leur regard, et puis on se dit que c'est peut-être un médium aussi pour comprendre la société autour. C'est-à-dire que s'ils ont une image qui leur arrive plus tard sur les réseaux sociaux, qu'ils puissent dire « Ah ok, est-ce que c'est simplement ça ?» ou alors « Est-ce qu'il faut qu'on en fasse le tour pour comprendre bien ?»
C'est aussi toute la question de l'illusion consentie, ou la question de ce qui nous échappe. Enfin, voilà, donc on voulait vraiment... Quand on a écrit le spectacle, voir un peu toutes ces différences entre passer du liquide au solide, changer de couleur. Enfin voilà, donc c'était vraiment une volonté de départ.
Voilà, vous venez de découvrir le spectacle Vertige de l'envers de l'Envolé Cirque. Un spectacle donc qui a été proposé dans le cadre de la BIAC, la Biennale Internationale des Arts du Cirque à Marseille, et qui là s'est tenu donc dans un gymnase, dans un des quartiers nord de Marseille, le quartier des Égalades. Et vous pouvez suivre les dates sur le site de la compagnie de Pauline et Nicolas, l'Envolé Cirque, c'est l'envolécirque.org. Pascal Jacob, on vient d'entendre en fait ce qu'est ce, je sais pas comment l'appeler, donc c'est pas du nouveau cirque, c'est du cirque contemporain. On est là dans un gymnase, pas dans un chapiteau, il y a pas de clown, nous disent les enfants, il y a pas de fauves, il y a pas d'animaux, puisque il y a c'est de la cruauté vis-à-vis des animaux. Mais c'est pas si simple pour eux d'entendre que c'est du cirque.
Non, en fait, c'est vraiment un choix. C'est un choix d'espace. Je pense que l'artiste de cirque incarne le cirque là où il est. Donc, alors, c'est pas toujours évident, effectivement, pour certains spectateurs de s'y retrouver. Mais le cirque est nomade de fait, puisqu'il va à la rencontre des uns et des autres avec son chapiteau. Je pense que on n'est pas si loin, finalement, d'aller en allant à la rencontre d'un public qui n'a pas forcément l'habitude d'en voir, qui le voit peut-être à la télé davantage. Je pense que le cirque est parfaitement à sa place dans la cité, même si, encore une fois, il n'y a pas tous les ingrédients...
Mais on voit bien aussi qu'il y a la nécessité de redessiner un peu les imaginaires autour du cirque. Ces gamins nous le disent, voilà, pour nous c'est un spectacle, mais le cirque c'est pas ça. Alors Tiphaine, qui travaille avec la compagnie Archaos et qui était là ce jour-là, fait un gros travail d'éducation, va au devant des scolaires avec son petit chapiteau pour essayer de leur faire comprendre que c'est aussi ça le cirque. C'est ça l'enjeu, c'est redessiner un petit peu la manière dont on se représente les choses.
Bah, c'est probablement Franco Dragone, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années, voulait réinventer l'imaginaire en fait des spectateurs, redonner de nouveaux codes peut-être pour s'approprier différemment ce que le cirque avait pu véhiculer depuis deux siècles et demi. Donc c'est vraiment une question de d'immédiateté, de moment, d'intensité. Je pense que à partir du moment où les éléments du vocabulaire sont là, chapiteau, pas chapiteau, je pense que ces enfants vont garder avant tout des images d'émerveillement avec la magie et que progressivement, petit à petit, se rendront compte en fait qu'ils ont vraiment assisté à un spectacle de cirque, même si pour eux, effectivement, il manquait peut-être le chapiteau, ou peut-être qu'il manquait
peut-être un petit clown.
Un petit clown.
Ouais. Nicolas nous dit finalement ce que vous nous dites peu ou prou sur cette idée d'un vocabulaire, d'une langue qui ensuite est mise en miroir avec l'époque, que le jonglage existe depuis que les hommes existent. Et justement, alors on se souvient des jeux du cirque, mais c'est né quand alors le cirque ?
Le cirque, ce qu'on appelle le cirque moderne, il est né vraiment au XVIIIe siècle. Il est né dans la période des Lumières. Ça n'est sûrement pas anodin d'ailleurs, parce que c'est un cercle dans lequel on peut voir les choses, on peut découvrir des fragments du monde qui s'assemblent sous vos yeux. Donc je pense que c'est assez bien dans l'esprit de cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Évidemment, ce cirque-là, il est avant tout équestre. Donc il est très très marqué par ses influences militaires, mais il puise bien évidemment dans l'univers saltimbanque, dans les pratiques de tréteau, qui elles, évidemment, sont bien plus anciennes. On a l'habitude de considérer que les premiers acrobates sont en fait les premiers chasseurs et que les premières formes acrobatiques en fait sont des rites d'imitation des animaux. Donc on utilise la force, la rapidité, l'agilité, la souplesse, etc., qui sont des caractéristiques animales, mais qui sont aussi des caractéristiques des acrobates, y compris d'aujourd'hui. Et donc, pour invoquer les dieux, pour les inciter à placer les bonnes proies sur le chemin des chasseurs, on imite les animaux. Et petit à petit, ce langage très, très organique et très utilitaire va devenir, en fait, des formes artistiques qui va se développer par elle-même, avec l'ajout de costumes, d'éléments de décor, et puis évidemment un enrichissement des pratiques. Et si vous pensez au machinois, par exemple, on pourrait se dire que l'ancêtre du machinois, c'est probablement le cueilleur qui monte au sommet d'un arbre pour décrocher des fruits, et puis le plus rapide du groupe va peut-être trouver intelligent ou malin de faire une petite figure en même temps, et progressivement, ça va donner naissance à une technique de cirque.
Ce que vous nous dites aussi là-dedans, c'est que le cirque, en fait, nous renvoie donc à une histoire extrêmement longue et que, par ailleurs, on le trouve partout dans le monde. Ça renvoie à ce que nous disait tout à l'heure Vincent Giovannoni au MUCEM. Il nous parlait de l'art pour un alphabète, en citant l'un de ses proches. Ça veut dire que cette forme-là, elle est universelle?
C'est probablement une des richesses les mieux partagées. Effectivement, la notion d'universalité est intéressante parce que, pour rebondir sur cette phrase de Bernard Cudlac, le fondateur du Cirque Plume, c'est vrai que si le cirque a aussi rapidement colonisé la planète, c'est parce que ses formes n'ont pas besoin de mots pour s'exprimer. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est la corporealité, c'est le geste, c'est la performance humaine qui rassemble les gens et qui n'ont pas besoin d'autre chose que d'être ensemble et de s'émerveiller d'un jongleur. Vous l'avez évoqué, les premiers manipulateurs de boomerang sont probablement les premiers jongleurs ou parmi les premiers jongleurs. Et cette fascination pour l'extraordinaire, en fait, est probablement le moteur de tout.
Alors, retour à Marseille. Pascal Jacob, depuis 15 jours, face au David, pour ceux qui connaissent la ville, et sur les plages du Prado, les chapiteaux de la Biennale accueillent chaque jour des centaines de spectateurs.
Il y a eu une réflexion de l'État à un moment donné pour se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce cirque se dévalorise lui-même, c'est compliqué, il reste un peu coincé quelque part. Il ne suit pas l'évolution de la société contemporaine. Et du coup, c'est là où Jacques Lang a décidé, par exemple, de créer le Centre National des Arts du Cirque, donc cette école supérieure des arts du cirque. Je m'appelle Guy Carrara et je suis co-directeur d'Arcaos Pôle National Cirque et de la BIAC, Biennale Internationale des Arts du Cirque.
Alors, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on peut imaginer par rapport au cirque, c'est que c'est un art rebelle. Raquel Rache d'Andrade, je suis co-directrice d'Arcaos Compagnie et de la BIAC. Il est toujours là où on n'attend pas. Même dans l'institutionnalisation, il ne sera jamais comme un autre art. Il va pousser au questionnement. Dans le cirque, on a cet avantage, c'est qu'on peut tout mettre dedans et on peut tout créer.
Il se trouve que moi, je n'aimais pas le cirque. Je n'aimais pas cette esthétique désuète pour moi, complètement en dehors, quoi. Je suis allé dans les premiers festivals de théâtre de rue et là, j'ai vu des artistes de cirque qui, hors du contexte du cirque traditionnel, donc en plein air ou qui tentaient de faire des choses, j'ai eu un autre regard sur eux et ils m'ont fasciné. Et après, je suis retourné voir le cirque, ça m'a déplaisé toujours autant, mais là, je me suis dit, il y a un défi incroyable. Comment on peut écrire des dramaturgies avec ces disciplines, en fait, qui racontent déjà tellement toutes seules en elles-mêmes, et comment faire recoller le cirque à son époque. Hein, ce qui fait d'ailleurs que ça a été un choc presque dans le monde entier à ce moment-là, hein, puisque c'était plutôt un phénomène de société.
J'étais dans la première promotion de l'école de Rio, mais j'étais déjà comédienne et danseuse. Je n'aimais pas le cirque dans ce côté paillettes et démonstration. Et avec Guy, on s'est rencontrés dans l'écriture. Pour moi, c'était important qu'on travaille l'écriture avant qu'un spectacle de cirque existe.
Est-ce que le risque là-dedans, ce n'est pas de créer de la distance avec un art qui est profondément populaire et accessible?
Non, on peut garder l'effet waouh, l'approche de l'acrobate qui est là et qui nous fait rêver. Et en même temps, on peut lire entre les lignes quelque chose qui va donner un autre sens au geste. Donc c'est pour tous les goûts, pour tous les gens, pour tous les âges et toutes les classes sociales.
Là-dedans, il y a aussi comment faire changer les imaginaires. On a écouté tout à l'heure ce qui s'est passé ce matin dans le quartier des Égalades avec des jeunes enfants qui sont venus découvrir une proposition. Pour eux, le cirque, c'est les lions, c'est le chapiteau, c'est les clowns.
Tout à fait.
Ce sont les parents qui vont amener les enfants, qui vont goûter à des choses différentes et qui vont transmettre aux enfants, je pense, l'idée que le cirque a changé et qu'il y a des propositions différentes.
Mais là, sur le village, on a un grand spectacle donc, de la compagnie Nofitstedt, qui est une compagnie galloise, un chapiteau de 700 places. Et on a gardé 4000 places à 4 euros, justement pour le public ou les centres sociaux, etc. Justement pour éduquer un public progressivement à ce qu'est le cirque contemporain. On n'est pas seulement des artistes, on est des artistes citoyens, bien sûr.
Bientôt, les cirques traditionnels, familiaux, vont être dans l'obligation d'abandonner les animaux. On voit à quel point pour eux, c'est de plus en plus difficile aussi d'obtenir des autorisations, d'arriver et de se donner en spectacle dans des villes. Qu'est-ce que ça vous inspire, la fin de cette pratique-là du cirque ?
Je trouve que c'est normal qu'il y ait une évolution dans les arts, quelle qu'elle soit. Et les animaux comme objet démonstration, je trouve que ça renvoie aux êtres humains aussi quelque chose qui parfois n'est pas très agréable à voir. Et je trouve que c'est une bonne évolution.
Ce qui serait important, c'est comment on accompagne ces gens-là.
Voilà, et la BIAC continue en ce moment même à Marseille. Vous allez pouvoir profiter, pour ceux qui ont la chance d'être sur place, encore d'une semaine de programmation. La BIAC, c'est l'un des 5 festivals les plus fréquentés de France, toutes disciplines confondues. Mais c'est aussi un marché hein, où viennent 650 programmateurs qui viennent de 40 pays. Pascal Jacob, ce qu'on vient d'entendre pose beaucoup de questions, à la fois sur la dimension populaire. Est-ce que cette institutionnalisation, elle n'est pas en train d'éloigner aussi un peu cet art des zones industrielles où on pouvait justement avoir le chapiteau? Est-ce que c'est pas le risque?
Non, parce qu'il y a des chapiteaux qui vont aussi dans ces lieux-là aussi. Donc le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de cirque pour pouvoir remplir toutes les cases et tous les interstices. Mais je pense que au contraire, le cirque s'ouvre de plus en plus à des publics de plus en plus larges. Il ne faut pas perdre de vue que le cirque, à l'origine, le lien, c'est le cheval. Et que donc, si on n'a pas de cheval, eh ben, on a moins d'intérêt à aller voir un spectacle. Et il va falloir attendre 1852 pour que, au cirque Napoléon, l'actuel cirque d'hiver, on trouve des places de troisième catégorie. Donc, pendant un bon moment.
Il n'a pas été populaire du tout.
Il a été pas si populaire que ça. Ce qui a vraiment permis la démocratisation du cirque, c'est l'invention du chapiteau, en Amérique d'abord, et puis sa divulgation en Europe à la fin du 19e, qui là, évidemment, a permis d'un seul coup d'avoir des lieux immenses et qui, encore une fois, allaient à la rencontre des spectateurs. Avant le chapiteau, les villes se dotaient d'un bâtiment, d'un cirque stable, qui était parfois l'équivalent d'un théâtre ou d'un opéra, là où il n'y en avait pas. Mmh. Il pouvait y avoir un cirque stable, donc d'où vraiment la popularité de cette forme artistique. Il y a eu presque 200 cirques à travers la France qui ont été construits, il en reste 7. Et évidemment, le chapiteau a sonné le glas de ces lieux qui étaient parfois magnifiques. On pense au Cirque Théâtre de Limoges qui était un bâtiment incroyable, ou le Cirque Métropole à Paris qui ont été rasés parce que le chapiteau offrait l'indépendance, la liberté et était à même, encore une fois, de porter la bonne parole du cirque à peu près partout.
Et d'être dans l'allée verte dont vous parliez tout à l'heure. Alors ce secteur aujourd'hui, il attire au-delà des 14-15 pôles nationaux de cirque. Il y avait 93 troupes de cirque contemporain en 1990, c'est près du 800 aujourd'hui. On ne compte pas les festivals. Alors, ce week-end se tient le Festival International du Cirque de Massy, la BIAC, qui se tient donc à Marseille. Il y en a un à Auch, il y a les Nuits du Cirque dans toute la France. Le Festival du Cirque de demain, évidemment, le Cirque Phénix qui a été organisé donc du 23 au 26 janvier. Enfin, comment expliquer aujourd'hui, et puis bien sûr, comment oublier les Folies Grusses, hein, qui sont en ce moment même à Paris, qui vont s'installer à Béziers dans quelques semaines, et qui accueillent des milliers de spectateurs encore pour leurs 50 ans, 160 représentations. Donc c'est un art vivant qui se transforme, et ce renouvellement en fait attire profondément.
Alors je pense vraiment que à partir de ce vocabulaire multiforme, c'est un spectacle proté en fait. C'est un spectacle qui ne cesse de se réinventer. C'est ce qui fait sa force.
Alors on l'a vu depuis le début de cette émission, le cirque se réinvente dans sa pratique et vous le disiez à l'instant, mais aussi dans ses représentations et notamment au cinéma. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous nous parlez d'un grand classique, le cirque au cinéma.
Oui, le cirque a inspiré certains des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art dans des registres les plus divers. Contes horrifiques et réflexions sur la monstruosité avec Freaks de Todd Browning en 1932 ou épopée dramatique hollywoodienne avec Sous le plus grand chapiteau du monde en 1952. Le cirque est chez lui au cinéma depuis toujours. Il faut rappeler qu'à l'origine, ce compagnonnage a lieu en sens inverse. Au début du XXe siècle, avant la multiplication des salles obscures, les projections ont lieu sous les chapiteaux des cirques itinérants. On compte aussi beaucoup d'acteurs venus du monde du cirque dans les premiers films muets. Écoutez ce qu'en disait un spécialiste du cirque, Paul Adrian, en 1985.
Le cinéma doit au cirque énormément, étant donné que le cinéma est en mouvement. Lorsque l'on a cherché à donner la vie, le mouvement, on a pris des gens de cirque qui étaient mouvement par excellence. On a pris un clown et son chien qui sautaient, on a pris des écuyers. Tout ce qui pouvait être mouvement se trouvait au cirque par excellence, plus qu'au théâtre.
Voilà, autre voix, constat similaire, avec cette fois-ci Pierre Etex, homme de cirque et cinéaste.
Le cirque a pratiquement tout apporté au cinéma comique. C'est-à-dire que si Keaton n'avait pas fait du musical et du cirque, il n'aurait jamais été le grand auteur qu'il a été. Et pour Chaplin, c'est la même chose, et pour chacun d'eux, c'est pareil. Je veux dire, toute chose qu'ils font à l'intérieur des films est directement issue, est un emprunt à la comédie clownesque.
Et cette complémentarité débouche sur un âge d'or du cirque au cinéma dans les années 1950, avec des films comme Trapèze ou Lola Montes. Mais progressivement, quelque chose se délite. Il faut mentionner ici le nom de Federico Fellini, qui consacra au cirque plusieurs très grands films, La Strada bien sûr en 1954, mais aussi un objet cinématographique singulier, un faux documentaire simplement intitulé Les Clowns en 1970. Avec ce film, Fellini rendait un hommage très personnel au cirque d'antan. Il redoutait et il pressentait la disparition prochaine d'un univers qu'il avait inspiré plus qu'aucun autre. Écoutez ce que son assistant Dominique Delouche disait de son rapport au cirque en 1971.
Je crois qu'il n'y a pas de film de Fellini où il y ait une séquence au moins de mascarade, de clownerie.
Oui, La Strada, par exemple, évidemment.
Même le Satyricon. Je pense que d'ailleurs, vous savez, Fellini est obsédé. Il voit le monde entier un peu comme un grand cirque. Ça, il faut bien le dire. Je crois qu'on est pour lui tous des clowns. Des clowns ou des fous, d'ailleurs.
Les films de Fellini marquent un hommage, mais aussi donc une forme d'adieu au cirque d'antan. Et le cinéma dit aussi adieu à une certaine proximité avec le monde forain dans les années 70. On esthétise désormais le cirque dans des productions dont le propos est souvent assez éloigné de sa réalité concrète. En 1987, Wim Wenders marque l'histoire du cinéma avec Les ailes du désir, une œuvre très onirique qui mêle un récit fantastique, une histoire d'amour et l'univers du cirque. Mais un cirque peut-être un peu trop cliché. Voici ce qu'en disait en 1989 Pierre Cudlac du Cirque Plume.
Disons que il était présenté, ce cirque, comme un petit cirque de gens très pauvres qui souffraient, etc. Et c'est un peu l'image très connue de du diamant dans le fumier ou de la perle dans la boue. Enfin, c'est cette chose-là. Moi, j'aspire personnellement à pas marcher dans la boue toute la journée. Je veux pas. C'est pas mon truc. Je n'ai aucune gratification de ça. J'ai envie, moi, de faire du spectacle. J'ai pas envie de montrer cette difficulté-là, de l'exalter. C'est pas notre propos, je crois.
Alors, Pascal Jacob, cette séquence d'archives s'interrompt à la fin des années 80. Le cirque demeure aujourd'hui encore une source d'inspiration pour les cinéastes. On pourrait parler de Tim Burton ou de Chocolat avec Omar Sy, que vous avez mentionné, Nora, tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que le pli pris dans les années 70 et 80 a été confirmé, c'est-à-dire une esthétique du cirque au cinéma, plutôt qu'un cinéma qui serait encore au plus près des réalités concrètes du cirque?
Si vous avez évoqué Lola Montez de Max Ophuls, et là on n'est pas du tout dans la boue, ou alors c'est pas tout à fait la même, mais moi je pense vraiment que effectivement le cirque est une source d'inspiration pour les cinéastes à travers le temps. Il y a eu quelques très grosses productions, vous avez évoqué Tim Burton avec Dumbo, avec Big Fish aussi, de l'eau pour les éléphants, aussi Water for Elephants, à partir d'un bouquin qui a fait un carton aux États-Unis et qui raconte ce cirque des années de la crise de 29, en fait, des années 30, avec une certaine poésie, donc qui est aussi une forme de miroir du temps. Donc, je pense qu'effectivement le cirque est un bon prisme, en fait, pour raconter des histoires et donner à voir aussi des formes auxquelles on n'a pas l'habitude de faire référence. Fellini, vous avez évoqué Fellini, il a une phrase terrible quand il a fait la préface d'un ouvrage en 77, en disant que pour lui, le cirque partageait avec les abattoirs et les asiles la même menace indéfinissable. Donc il en avait une conscience très particulière. Il adorait le cirque, hein. Il a adoré les filmer des gens de cirque, mais c'est vrai que les clowns a brisé quelque chose, parce que la commande de la raille était avant tout un documentaire, et il en a fait une œuvre très très personnelle, vraiment un ovni total, en finissant sur la mort du clown et la mort du cirque. C'était assez particulier. C'est un film magnifique, hein. N'hésitez pas, mais...
Alors justement, Pascal Jacob, c'était à la fois dans l'ouverture de l'émission et ça, c'est un propos, voilà, qui a tenu à peu près tout un fil. Quelle place pour ces familles, celles qui sont encore dans des cirques itinérants et qui vont devoir abandonner les animaux en 2028. Tout à l'heure, on entendait Descarrarettes nous dire il va falloir les accompagner. Est-ce que c'est, comme dans le film de Fellini, une part de mort du cirque?
Non, c'est pas une mort du cirque, c'est une page qui va se tourner. Mais on n'invente rien, vous savez, l'interdiction des animaux, elle date des années 20 en Angleterre, donc de 59 en Scandinavie. Donc voilà, le cirque scandinave ne s'est pas éteint. Pour autant, après, je crois que les familles sont tout à fait capables de se réinventer, en fait, de tirer parti d'un héritage formidable et à partir de là, bah, d'écrire de nouvelles pages. On a évoqué tout à l'heure la notion de vocabulaire, la notion d'alphabet. À partir de 26 lettres, regardez ce qu'on a écrit, la littérature planétaire. Bah, pourquoi à partir d'un vocabulaire extraordinaire, on ne serait pas capable de réinventer des formes extraordinaires?
Merci Pascal Jacob de nous avoir accompagnés dans ces déambulations au travers justement de ce qu'est le cirque d'hier à aujourd'hui et à demain. Je rappelle vos ouvrages vraiment, courez-y, Une histoire du cirque et Clown, ça a paru au Seuil. Évidemment, je rappelle aussi que la BIAC se tient encore en ce moment même à Marseille et dans toute la Provence. L'exposition En Piste est à découvrir au Mucem jusqu'à mai prochain. Courez-y absolument. À Massy ce week-end, en Essonne, se tient le Festival International du Cirque. La famille Grus fête actuellement ses 50 ans. Et son chapiteau est à Paris, dans le 16e arrondissement, jusqu'au 30 mars, puis s'installera à Béziers. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, commenter, réagissez par mail sur les réseaux sociaux. On vous lit, on vous répond. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Vanessa Nadjar qui l'a réalisée. À la technique, c'était François Saint-Jour.